France Inter, le rendez-vous de la médiatrice Emmanuelle Davier.
Ce matin, j'accueille une journaliste, un humoriste et un producteur de France Inter, des voix emblématiques de la station pour clore cette saison au cours de laquelle vous nous avez beaucoup écrit. 160 000 messages reçus depuis le mois de septembre au service de la médiation de Radio France. 81% des courriels concernent France Inter. Tous vos messages sont lus et dans la mesure du possible, nous tentons d'apporter des réponses à vos questions, qu'il s'agisse de la ligne éditoriale de l'antenne, du traitement médiatique de l'actualité ou même du contenu humoristique de certaines chroniques. Ce matin, dans cette émission qui est celle des auditeurs, nous parlons humour avec Guillaume Meurice, du téléphone sonne avec Fabienne Sintès et de la grille de rentrée avec Mathieu Vidard. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Et c'est avec vous, Fabienne Sintès, que nous commençons cette émission avec un sujet qui a suscité de très nombreuses réactions d'auditeurs, les djihadistes français condamnés en Irak.
Les deux derniers Français jugés en Irak pour appartenance à l'État islamique ont donc été condamnés à mort ce lundi matin, ce qui porte à 11 le nombre de Français condamnés à la peine capitale.
Est-ce qu'on n'a pas une responsabilité, quelle que soit l'ignominie qui aurait été accomplie par certains de ces jeunes Français, et d'ailleurs peut-être pas tous, parce qu'il y a des degrés divers aussi de responsabilité, est-ce qu'on n'a pas une obligation impérative d'éviter qu'ils soient exécutés? La réponse est oui.
Je voulais juste dire que je suis tout à fait contre leur extradition en France. Ils ont commis les pires exactions et il ne manquerait plus qu'ils soient jugés en France. Je trouve complètement aberrant qu'on puisse même en discuter, à vrai dire.
Doit-on laisser exécuter les djihadistes français? C'était le titre du téléphone sonne le 3 juin dernier. Un sujet ultra sensible, clivant, qui a généré un courrier massif des auditeurs. Parmi vos invités en studio, William Bourdon, avocat à l'initiative de la tribune des 44 avocats contre les condamnations à mort en Irak. Des réactions d'auditeurs, je le disais, très nourries, nombreuses. On commence avec Hervé. Je ne comprends pas que ce sujet fasse l'objet d'un téléphone sonne. Je comprends d'autant moins que l'avocat n'a aucun contradicteur en face de lui, sauf les quelques auditeurs qui arrivent à passer le standard. À quoi joue Madame Sintès? Alors, un point de vue également, Guillaume Meurice, point de vue également formulé en direct dans l'émission Delphine, donc une auditrice que l'on vient d'entendre. Que leur répondez-vous, Fabienne Sintès?
Alors, William Bourdon tout seul face aux auditeurs, c'est un choix assumé. C'est comme ça qu'on voulait faire cette émission. Moi, je pense qu'il y a des fois, et sur certains sujets, l'idée, c'est pas de jouer au pugilat les uns contre les autres. L'important, c'est de donner à entendre et surtout de faire en sorte que chacun puisse penser contre lui-même dans ce genre d'émission. C'est exactement à ça que ça servait. Puisque, y compris le gouvernement est extrêmement gêné aux entournures avec cette histoire de djihadistes, alors allons-y, posons-les, ces questions-là, posons celles qu'on entend. De quoi vous avez peur? Qu'est-ce que vous penser que ces gens-là pourraient devenir, etc. Ce qui est d'ailleurs intéressant, y compris dans les extraits que vous avez donnés, c'est le contresens. L'idée, c'est pas les juger ou pas, c'est encore une autre question. L'idée, c'est les laisser exécuter ou pas, ce qui est quand même tout à fait autre chose et d'un autre niveau. Donc, oui, on assume de poser la question comme ça. Oui, on assume de se dire, les contradicteurs, ce sont ceux qui vont appeler. Et contrairement à ce que dit notre ami Hervé, c'est pas les quelques qui ont réussi à passer le standard. Non. Le téléphone sonne, elle reflète aussi de ce qu'on reçoit au standard. Et là, une écrasante majorité de gens avaient ce genre de questions. Il y en a très peu qui avaient une opinion différente. On en a passé une, je me souviens. Mais puisque l'écrasante majorité a ce genre de questions, alors allons-y, allons confronter ça à William Bourdon dans C'est le métier. Et je pense que là, pour le coup, au moins, effectivement, chacun est sorti de là, peut-être un peu secoué, mais en tout cas, avec un contradicteur en face qui avait vraiment du poids.
On poursuit avec deux messages. Je ne comprends pas l'acharnement de cet avocat, peut-être en recherche de sensationnel, et je ne comprends pas qu'on lui laisse à ce point le micro, il monopolise le temps de parole. Et en contrepoint, je vous lis le message de Myriam, une auditrice qui a une toute autre perception de votre émission. Je suis effarée par la gestion du thème de la condamnation à mort de Français. France Inter est un média d'excellence. Comment pouvez-vous ne laisser intervenir que des personnes qui estiment normal d'exécuter un être humain? Je suis franchement en état de choc et dans une colère indicible. Fabienne Sintès, comment sur un tel sujet on équilibre le temps de parole, si tant est que cela soit possible?
Mais s'il n'y a pas d'équilibre de temps de parole, je veux dire, on n'est pas dans un débat politique, donc la question n'est pas dans l'équilibre du temps de parole. Encore une fois, le parti pris qui était le nôtre, c'est de dire, c'est de jouer au fond, l'opinion publique dit ça. En ce moment, voilà ce qu'on entend. Donc, laissons la l'avenir et écoutons ce que William Bourdon, dont c'est le métier, s'il ne fait pas du sensationnalisme, c'est son boulot à William Bourdon de faire ça. Donc voyons, confrontons ces deux idées-là. Donc c'est ça qu'on fait. Moi, qu'est-ce qu'on nous aurait dit si on avait eu autour de la table que des gens et que des appels surtout de gens disant mais évidemment qu'il faut ne pas laisser ces gens exécuter, etc. Qu'est-ce qu'on nous aurait dit s'il y avait eu le schéma purement inverse, on nous aurait accusé de faire du droit de l'hommisme, etc. Ce que je vois là, c'est un sujet passionnel et passionnant, c'est que d'abord, on a fait la même émission avec des enfants, et avec les enfants de djihadistes, et l'image de l'émission, le ton de l'émission, le ton des mails qu'on a reçus était totalement différent. On est là dans quelque chose qui nous interpelle tous, qui fait peur à certains, on l'a pris de front. Et moi je suis contente que sur ces sujets-là, on les prenne de front, en effet.
On termine avec le message de Marie. J'ai rarement entendu une émission d'une telle intensité. Personne ne peut soutenir les djihadistes. Mais notre grandeur est au-dessus de la barbarie de ces hommes. Accepter la peine de mort, c'est nous mettre au même niveau. La démocratie a cela de beau qu'elle permet à un salaud d'avoir un procès équitable. Vraiment, bravo Madame Sintès.
Eh ben, merci Marie. C'est marrant parce que l'émission, on voulait l'intituler doit-on empêcher les salauds d'être exécutés ou quelque chose dans ce goût-là? Puis on s'est dit non, on va pas aller jusque-là parce qu'on va pas commencer à se faire engueuler dès le titre. Après, ça va être compliqué. Mais effectivement, c'était ça l'idée et je suis contente que Marie l'ait bien perçue. Elle est pas la seule, heureusement.
Fabienne Sintès, croyez-vous que l'on puisse faire des djihadistes français condamnés en Irak un sujet de chronique humoristique?
Mais évidemment, à condition d'être drôle. Tiens.
Ah bah, on écoute ça avec Guillaume Meurice.
La pression. Qu'est-ce qu'on fait de ces djihadistes français?
Bon, on les laisse là-bas et on les égouille.
On les égouille?
Bien sûr.
Comment on les égouille?
On n'est pas en haut et quoi.
Voilà, donc là, il y a moins d'hésitation. Là, d'accord, là, on reconnaît vraiment l'esprit du pays des droits de l'homme.
Je le disais à côté de vous,
oui.
Guillaume Meurice.
Oui, on est mercredi, le jour des enfants. Alors, je sais qu'autour de la table, tout le monde n'aime pas les enfants. Hein. Je vais vous parler d'éducation plutôt aujourd'hui. Alors, sujet vaste, hein, qui va de Françoise Dolto à Véronique Courgeot, en passant par Michel Fourniret et Dora l'Exploratrice. C'est très, très vaste. Enfin, heureusement qu'il y a des parents responsables, notamment cette maman qui a bien élevé son enfant.
Il est passionné de Porsche et il a 5 ans, voilà.
Mais alors comment on peut être passionné de Porsche à 5 ans?
Parce qu'il a un environnement familial amical qui en fait a des Porsche et il va dedans et il trouve que c'est une très belle voiture.
Il a beaucoup de Porsche autour de lui.
Voilà, il a la chance d'en avoir beaucoup autour de lui. Donc je lui dis que s'il faisait HEC comme sa maman, il aurait une Porsche.
Et voilà, si tu fais HEC comme maman, t'auras une Porsche.
Guillaume Meurice, bonjour.
Oui, Guillaume Meurice. Et les gens, hein, surtout les gens qui sont rigolos dans l'histoire.
Ouais, alors première question d'Antoine. Qui choisit le thème des chroniques de Guillaume Meurice? Quels sont les critères?
C'est moi. Moi et moi seul.
Ça les explique
critères,
tout.
Ouais, ça explique pas mal de choses. Les critères, essentiellement l'actu, parce que ce qu'on fait dans l'émission, c'est du commentaire d'actu satirique et humoristique. Donc j'essaie d'avoir un sujet qui colle à l'actu. Et puis après, il me faut un angle... d'attaque et puis des questions un peu décalées et rigolotes, quoi. Voilà. Mais sinon, ouais, c'est, j'aime bien choisir tout seul. Je suis assez solitaire dans le travail. J'ai pas de co-auteur, je choisis tout seul, ouais.
Et Marina se demande, y a-t-il des sujets que Guillaume Meurice s'interdit?
Non, et même si c'était le cas, ça serait un peu contre-productif parce que j'ai eu une chronique par jour pendant 3 ans. Là, j'en ai plus que 4 par semaine parce que j'ai lâché le vendredi. Mais donc, je suis obligé de brasser tous les thèmes possibles et inimaginables. Donc, non, je m'interdis rien du tout. Alors, ce qu'on me cite souvent, c'est le conflit israélo-palestinien. Donc, c'est bon, j'ai déjà fait des chroniques dessus. Donc, à chaque fois que les gens me disent « Ouais, t'oserais jamais t'attaquer à ça », bon, je leur envoie les liens. Et puis, oui, la religion, c'est souvent des sujets où dès qu'on fait sur une religion... la religion, on va dire, vous n'oseriez pas faire la même chose sur les autres.
Donc, oui.
J'ai mes petites listes de chroniques, je leur envoie. Puis souvent, les gens ils me disent, ah pardon, j'avais pas vu, ok.
Bon, on peut dire que l'actu est assez inspirante.
Par définition, oui, puis elle se renouvelle. On a eu peur avec Macron que ça devienne un petit peu mou et que ça tourne en rond, mais non, on n'est jamais surpris. En fait, c'est le pouvoir qui est absurde, c'est même pas tellement Macron.
Un certain nombre d'auditeurs vous reprochent de faire un montage avec un parti pris, je cite,
oui. Outrancier.
Outrancier. Oui. Est-ce que c'est votre façon à vous de faire de la caricature?
Évidemment, c'est comme une caricature de presse, quoi. Comme quelqu'un qui dessine Nicolas Sarkozy très très petit. En vrai, il n'est pas si petit que ça. Mais à grossir le trait, oui, être dans la satire, ça c'est ce qu'on aime faire, c'est sûr.
Mais comment vous expliquez que les auditeurs le perçoivent parfois si mal? Qu'il s'agit d'une caricature.
Ça puisse arriver que les auditeurs le perçoivent mal s'ils n'écoutent pas l'émission en entier. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de réactions comme ça sur les réseaux sociaux, où les gens parfois me confondent avec un journaliste. Moi, je passe mon temps à dire je ne suis pas journaliste.
Vous n'êtes pas fondamentalement carte de presse.
Je suis humoriste, en fait. Je fais pas le même travail que Fabienne, ou je fais pas le même travail que quelqu'un qui est...
Ou Mathieu Vidard.
Ou quelqu'un qui est en Syrie, ou j'en sais rien, en fait. Moi... mes chroniques, c'est plutôt des éditos humoristiques, si on veut résumer ça.
Comment vous qualifiez votre humour cynique, c'est la pire question méchant, qu'on puisse poser. Moqueur, politiquement taquin. Engagé, voire taquin. Provocateur.
Taquin. Je provocateur. Dirais taquin. Non, vraiment pas. Non, je suis un peu un bisounours en fait, moi. Je suis pour l'égalité homme-femme, la bon, répartition des richesses. Enfin voilà, non mais je suis
Fabienne,
pas
c'est bisounours,
mais n'importe quoi.
Non mais je veux dire, je suis pour que le tout le monde soit content dans ce monde en fait. Donc c'est pas, je fais pas de la provocation.
Je vous ai croisé un jour à l'Assemblée nationale, Guillaume Meurice, dans la salle des quatre colonnes. J'étais en reportage avec des élèves d'interclasse et je vous ai vu interviewer un député. Alors objectivement, il avait l'air de pas en mener large et je me suis demandé comment vous arriviez encore à obtenir des interviews d'élus ou de politique.
Alors ça,
ils
faudrait
vous
leur demander
identifié.
À eux. Si, il y en a qui m'ont identifié, mais qui acceptent de me répondre quand même, parce que, alors je sais pas, il faudrait vraiment leur demander à eux. Est-ce qu'il y a une part de, ben c'est pas grave d'être caricaturé. Je suis pas au niveau des guignols de l'info, mais il y avait un peu de ça dans les guignols où ils étaient fiers d'avoir leur marionnette. Bon, moi c'est vraiment un niveau très très en dessous, mais en termes de notoriété. Mais il y a peut-être un peu de ça. Il y a peut-être un côté qu'ils aiment bien aussi la joute verbale. Moi, je suis jamais agressif, je suis pas très méchant, comme je le disais. Donc, au pire, j'essaye de les mener, de les faire tourner en bourrique et ils s'en sortent plus ou moins. Il y en a qui aiment bien, en vrai. Il y en a qui aiment bien le débat, c'est même leur métier. Donc,
Guillaume Meurice.
Il y en a qui veulent plus me parler non plus, attention.
Qui?
Il y a les deux. Éric Ciotti, il en a marre, clairement. Il m'a dit la dernière fois, non, j'en ai marre. Aurore Berger veut pas me parler non plus. Donc il y en a quelques-uns, oui, qui ça n'amuse pas du tout.
Qui aimeriez-vous avoir devant votre micro? Emmanuel Macron?
Là, ben, alors c'est j'étais au Bourget là et j'avais l'occasion. Mais alors pour avoir Emmanuel Macron, il faut suivre les journalistes qui sont ce qu'on appelle le terme technique, c'est en meute. C'est-à-dire qu'ils sont tous là avec leur caméra, avec leur micro, à jouer des coudes pour avoir une demi-réaction de Macron. Et moi, ça m'intéresse pas trop. Mais Macron, ouais, s'il veut faire une chronique de 5 minutes. On se fait une interview face à face, ça oui, ça me plairait plutôt bien, ouais.
Bon, l'invitation est lancée.
Ouais, je pense qu'il écoute de toute façon.
Bien sûr.
Il écoute la honte de la République.
Sujet très politique, l'écologie, et apparemment c'est un bon support pour l'humour.
Ouais, ça l'a longtemps pas été, parce que ça passait pour un truc de vieux ronchon, rabat-joie et peine à jouir, quoi. Et depuis que on ne parle que de ça, oui, effectivement, c'est un bon sujet, ouais. Bah, parce qu'il y a plein de contradictions. Nous, on a plein de contradictions là-dessus. Et donc, tous les gens ont des contradictions.
Bon, on écoute ça et on en parle tout de suite avec Mathieu Vidard.
Pareil, à côté de vous, il y a Guillaume Meurice.
Ben moi aussi, j'ai eu un gros coup de cœur ce matin dans le 7-9 pour ce fameux Mathieu Laine. Oh la beauté! Il a un discours sublime qui ferait passer Alain Minc pour un zadiste, notamment sur l'écologie. Allez, on aime, on vous en parle.
En réalité, les pays les plus développés sont les moins polluants.
Et voilà, quelqu'un qui ose dire la vérité, ce sont les pauvres qui polluent.
Urgence ou crise climatique plutôt que changement climatique, embrasement et non réchauffement global. Si le quotidien change son vocabulaire, c'est parce qu'il faut rendre compte de la façon la plus juste d'une réalité grave.
Du lundi au vendredi sur France Inter,
La Tête au Carré,
Mathieu Vidard.
Éclairez les questions et les mystères qui agitent la recherche avec les spécialistes dans tous les domaines de la science.
Alors justement, Karine Balzo, quand on parle de l'arrivée du plastique au moment justement où un enfant arrive dans la famille, qu'est-ce qu'on peut observer comme changement, comme mutation précisément dans ce domaine alors?
Mathieu Vidard, bonjour.
Bonjour.
La Tête au Carré pendant 13 années et à la rentrée, une nouvelle émission consacrée à l'environnement. Nouveaux défis pour vous et pas des moindres puisque Laurence Bloch, la directrice de France Inter, a indiqué qu'il s'agissait d'un rendez-vous phare de la grille de rentrée. Une création à laquelle elle tient beaucoup, la Terre au Carré. On sait que les auditeurs ont une forte sensibilité à l'environnement et à l'écologie. Ils nous l'ont écrit tout au long de l'année. Alors qu'est-ce que vous leur concoctez pour la rentrée?
Ben on va d'abord, je crois, essayer d'éclairer la complexité du sujet, parce que évidemment tout ce qui tourne autour de l'environnement et de la biodiversité nous intéresse, mais parfois, évidemment, c'est assez difficile de comprendre les tenants et les aboutissants de toutes ces questions-là. Donc, ben, le rôle qu'on va avoir, comme on l'a eu d'ailleurs pendant 13 ans avec La Tête au Carré, ça va être d'inviter les spécialistes et les scientifiques, par exemple, j'y tiens évidemment beaucoup, les experts, les penseurs de la question, les acteurs de l'environnement et de l'écologie, pour nous aider à comprendre un petit peu ces sujets sujet souvent difficile, parfois hautement inflammable. Donc on va essayer d'apporter de la pédagogie avant tout, de donner du sens, parce que je crois qu'on a besoin aussi de réfléchir ensemble à ces questions. Donc on va tenter d'offrir de la matière pour penser collectivement cette question de l'environnement qui nous touche tous.
Oui, alors pensez collectivement. Justement, un auditeur écrit récemment « Au secours, les prêtres de la nouvelle religion, l'écologie, ont pris le pouvoir à France Inter. C'est une propagande ininterrompue. » Alors Mathieu Vidard, pour parler d'écologie, comment élabore-t-on une ligne éditoriale sans être donneur de leçons ou tout simplement culpabilisant pour les auditeurs?
Je crois que c'est la première chose à laquelle on a pensé finalement en imaginant la Terre au carré. C'est d'abord d'éviter de sombrer dans l'apocalypse, parce que je pense que c'est totalement contre-productif et qu'au fond, on a une espèce de capacité d'évitement, de dissonance cognitive, hein, on appelle ça comme ça en psychologie sociale, pour éviter justement d'affronter ces sujets lorsqu'ils viennent contre notre pensée et notre façon d'imaginer les choses. Et donc c'est à la fois ne pas être dans l'injonction, parce que ça ne marche pas non plus, mais c'est plutôt voilà, d'éclairer les choses d'une autre manière, pour ne pas être donneur d'ordre, ni d'être d'ailleurs la bonne conscience écolo de France Inter. Ce sera pas ça la Terre au carré, on va essayer de comprendre les choses, mais de ne pas être voilà, des donneurs de leçons au quotidien.
Alors, les comprendre avec les auditeurs ou pas? Parce que les auditeurs apprécient l'interactivité. Est-ce qu'ils pourront intervenir au cours de l'émission?
Alors là aussi, plus que jamais, parce qu'on ouvre le standard de France Inter entre 13h30 et 14h30. Donc, on aura des auditeurs en ligne pour interpeller les invités du jour, donc sur les dossiers que nous allons consacrer à l'environnement. On aura aussi, comme on l'avait avec la Tête au carré, une partie interaction par mail très importante. Et puis, les réseaux sociaux, là aussi, qu'on va renforcer, une présence très importante dans le numérique pour que la parole aussi des auditeurs et du terrain puisse remonter. Et c'est une émission qu'on imagine comme étant très participative. Donc on a très envie et on a besoin aussi des auditeurs pour la construire.
Piloter pendant 13 ans une émission scientifique, c'est un poste d'observation parfait pour voir l'évolution des mentalités en matière d'écologie. Qu'avez-vous constaté au fil des années?
Alors, au fil des années, d'abord, un intérêt grandissant, mais surtout quelque chose d'incroyable qui s'est passé, moi, je pense, cette année. C'est-à-dire que l'année 2018-2019 a été tout à fait singulière dans la prise de conscience, là aussi, collective, mais pas seulement des Français, de l'ensemble de la planète, sur ces questions environnementales, climatiques, de biodiversité. Je crois qu'il y a eu des rapports sur l'effondrement de la biodiversité qui ont beaucoup marqué les esprits. Et puis, les marges du climat, on l'a vu absolument dans tous les pays. Et pour la France, je pense que la démission de Nicolas Hulot a été vraiment un moment, ce moment qu'on a vécu d'ailleurs en direct dans la matinale de France Inter en août dernier, un moment très particulier où tout d'un coup il y a une prise de conscience qui a mobilisé aussi beaucoup les Français. Aujourd'hui, je pense que dans toutes les couches de la société, on s'intéresse à l'environnement, on s'intéresse à l'écologie au sens de notre place d'humain dans la nature, et c'est ces questions-là qu'on va aborder à partir de la rentrée.
Mathieu Vidard, une dernière question, quel est votre geste quotidien pour la planète?
Par exemple, de ne pas prendre l'avion cet été ou de venir à la radio à vélo tous les matins.
Allez, même question à Fabienne Sintès.
Alors, moi je ne prends pas l'avion cet été non plus, mais il faudra me payer extrêmement cher pour que je fasse du vélo.
Et donc votre geste du quotidien?
Moi, je ne prends pas l'avion cet été.
C'est pas un geste du quotidien,
mon geste du quotidien, j'ai une gourde.
Bon, on va tous
crever. Je lui parle.
C'est foutu. Je vous l'annonce, c'est foutu.
Bon, Guillaume, vous, votre geste?
Je réécoute la démission de Nicolas Hulot. Tous les jours, tous les matins, ça me met en forme. C'était un moment de grâce.
Fabienne Sintès, Guillaume Meurice, Mathieu Vidard, merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci, merci.
À bientôt.
Merci, à la prochaine.
C'est la fin du rendez-vous de la médiatrice. À la préparation de cette émission, Catherine Cadic et Juliette Fayollet. À la réalisation, Alicia Vulot. Et à la technique, Fabrice Desmaz. Pour nous écrire, une seule adresse, mediatrice.radiofrance.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. Après le flash de 10h, vous retrouvez Ali Rebéi et ses invités.